Je m'appelle Alethea. Mon histoire est vraie. Je suis une créature solitaire. Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parents. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe? Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir.
Vous avez pu reconnaître un extrait de 3000 ans à t'attendre, le film de George Miller, parlant des contes et de nos imaginaires. Un choix que l'on pourrait trouver surprenant pour parler d'astrophysique, mais pas tant que cela quand on voit le titre du dernier livre de David Elbaz, Les 10 000 et une nuits de l'univers. Mardi dernier, à 20h30, l'astrophysicien a donné une conférence à l'espace des sciences des champs libres, l'histoire de l'univers racontée par la lumière. Le directeur scientifique du département du commissariat à l'énergie atomique de Paris-Saclay a donné une conférence autour de son dernier livre, contant l'histoire de l'univers. Cette envie-là de conter la science, que l'on ressent à travers le titre de l'ouvrage, fait référence aux 1 000 et une nuits de Scheherazade. David Elbaz nous a expliqué pourquoi il voulait faire référence au monde de l'imaginaire.
D'abord, Georges Lemaître, celui qui avait découvert le Big Bang, a dit que finalement, l'univers était une histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Et puis, il se trouve que entre la découverte de la première exoplanète, la première image profonde de l'univers et aujourd'hui, il s'est écoulé à peu près 10 000 et une nuits. Et pendant ces 10 000 et une nuits, on est en train de réinventer l'univers avec des découvertes qui se succèdent à un rythme incroyable. Et on vient de vivre, on est en train de vivre un véritable changement fondamental de paradigme, c'est-à-dire de conception de l'univers, grâce aux premières images du télescope spatial James Webb.
Les 10 000 et une nuits de l'univers a été construit autour de photos prises par le télescope spatial James Webb. Ce télescope, qui a été lancé par la fusée Ariane 5 pour remplacer Hubble, a déjà permis plusieurs découvertes, dont la photo qui a été à l'origine de l'ouvrage.
Alors justement, l'histoire est en train d'être écrite parce que le satellite a été lancé le jour de Noël 2021, donc ça fait pas si longtemps que ça. Les premières images sont arrivées à l'été 2022 et pourtant, à partir des premières données, on a déjà des découvertes surprenantes. Celle qui m'a le plus touché et dont je vais parler dans cette conférence, c'est le fait que les galaxies dansent, alors j'appelle ça la danse des galaxies, c'est-à-dire le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes dans un disque, comme une robe qui tourne et qui ne s'effondre pas sur elle-même depuis la nuit des temps. Et on ne savait pas ça parce qu'avec les images de Hubble, on pensait que l'histoire de l'univers était chaotique. Elle était faite de collisions, de galaxies, de flambées d'étoiles. Et là, tout à coup, on se rend compte que l'histoire de l'univers, donc notre histoire, est une véritable danse cosmique qui, tout à coup, donne sens à des aspects totalement invisible, comme l'existence de fleuves cosmiques qui nourrissent les galaxies et qui les font danser.
David Elbaz parle donc dans son livre de sens de l'univers. Chose surprenante puisque l'on a toujours eu cette vision de l'univers désordonnée, chaotique. Pourtant, l'astrophysicien lui donne un sens et une histoire.
Il y a l'expérience qu'on fait dans sa cuisine, par exemple. Si je fais tomber une assiette, elle tombe, elle casse. Et on a notre expérience quotidienne, c'est que les objets peuvent casser mais ne vont pas se reconstituer d'eux-mêmes. Mais ce qu'on observe dans l'univers, sous l'effet de la gravité, mais pas uniquement, c'est que des structures se mettent en forme par elles-mêmes, spontanément. Et il existe des théories qui montrent que sans la lumière, ça serait impossible. Et en fait, la découverte la plus surprenante, c'est ce que j'appelle le sens de l'évolution, mais ce n'est pas le sens au sens de la signification, mais au sens d'une pente, eh bien, c'est que l'univers, depuis la nuit des temps, donne naissance à toujours plus de lumière et que la lumière, à la fois, nous conte l'histoire de l'univers et est l'actrice qui cisèle, qui sculpte l'univers, qui donne forme à l'univers. Et ça, c'est bouleversant parce que toutes les formes qu'on voit grâce à la lumière, eh bien, ce sont à chaque fois qu'on regarde loin dans le passé, on voit des formes qui sont très primitives, puis quand on se rapproche du présent, des formes de plus en plus structurées, on voit la lumière à l'œuvre un peu comme un sculpteur.
Donner un sens, une histoire, c'est avoir envie de narrer la science, de la conter, C-O-N-T-E bien évidemment. Cette envie-là rejoint celle d'Étienne Klein, qui disait récemment vouloir démocratiser la science par le récit. C'est cette volonté-là qui pousse David Elbaz à conter l'histoire de l'univers.
Quand on parle de l'édifice scientifique, c'est un peu comme une cathédrale avec des faits établis. Lorsqu'une pomme se détache d'un arbre, elle tombe. Mais lorsqu'on fait de la recherche, quand on explore des territoires nouveaux, quand on est confronté à des nouvelles images, des nouveaux spectres, des nouveaux satellites, etc., on est confronté à l'inconnu. Alors comment fait-on pour explorer l'inconnu? Quelle est la machette avec laquelle on va se frayer un chemin? On est obligé de choisir une voie pour avancer, de construire un récit. Et le récit compte, C-O-N-T-E. Le récit nous permet d'avancer, de défricher, de découvrir des nouvelles idées. Et pendant cette phase de construction, d'imagination, la seule chose dont on dispose, c'est le récit. Or, l'univers, c'est le récit de nos origines, c'est aussi notre récit, et qu'on doit se réapproprier pour se situer dans ce récit. Donc c'est en ce sens-là que, pour moi, le récit est fondamental dans l'histoire de l'astrophysique.
David Elbaz, qui a écrit son livre en s'inspirant du titre des Mille et Une Nuits, un conte, attache une grande importance à l'émerveillement et à la naïveté dans le monde scientifique. Il nous explique donc l'importance de cette naïveté.
La naïveté, c'est vrai que c'est très important, vous avez raison, parce que imaginez que vous voyez un phénomène qui, d'un point de vue rationnel, d'un point de vue raisonnable, d'un point de vue scientifique, ne fasse pas sens. Eh bien, vous n'allez pas le voir. Et vous pouvez comme ça perdre des décennies dans l'avancée scientifique parce que les connaissances du moment ne vous permettent pas d'intégrer une observation qui ne fait pas sens. La naïveté, c'est la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, même si elle ne s'inscrit pas dans notre récit. C'est la capacité d'adapter notre récit à des faits qui sont troublants, qui peuvent sembler même magiques. Accepter l'idée de la magie de l'univers, c'est scientifique. Les analogies sont scientifiques. Par exemple, Einstein s'est appuyé beaucoup sur des analogies pour avancer. Et après, bien sûr, il faut construire un récit logique, il faut intégrer ça dans des récits mathématiques, dans une construction mathématique. Mais dans un premier temps, la naïveté est fondamentale pour découvrir une Terre nouvelle.
En nous parlant des analogies d'Einstein pour créer sa théorie de la relativité, David Elbaz nous évoque deux rôles qui existent en astrophysique, l'observation et la création de théories. Il nous explique la différence entre ces deux catégories d'astrophysiciens, les observateurs et les théoriciens.
Le travail du scientifique, c'est très prenant. Il est très 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 difficile de faire une avancée majeure, à la fois sur un plan de développement mathématique d'une théorie pour lever des verrous dans un développement mathématique, comme par exemple dans des théories qui vont tenter de concilier la mécanique quantique et la relativité, tout en développant des méthodes d'analyse des images de satellites, en essayant d'explorer, de choisir les meilleurs angles sous lesquels explorer, justement, comme on le disait avec naïveté, quelque chose de nouveau. C'est très difficile de tout faire. Et donc, effectivement, il y a quand même deux grandes catégories, ceux qui vont observer l'univers, collecter les faits, les confronter aux théories, et puis ceux qui vont développer les théories, puis entre les deux, des gens qui font un peu des simulations à ordinateur. Moi, je suis dans la catégorie des observateurs. J'essaye de coller le plus près possible à ce qu'on observe. Je travaille sur des aspects qui vont servir de point de repère pour vérifier que les théories qu'on construit sont réalistes. Grâce à ce que nous observons, les observateurs, on peut savoir si une théorie est réaliste ou non. Je donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on observait que les ondes gravitationnelles avaient une vitesse qui était quasiment la même que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, ce sont les déformations de l'espace-temps, quelque chose qui avait été prédit, qui ont été observées et qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Or, certains collègues qui développaient des théories mathématiques très sophistiquées avaient prévu que ça ne serait pas le cas. Eh bien, par une seule observation, on a fait une avancée à la théorie puisqu'on a rejeté tout un tas de modèles théoriques. Alors malheureusement, je me rappelle encore du collègue quand il a appris ça, il avait presque les larmes aux yeux, il a dit « je vais arrêter » parce qu'il a perdu tout ce qu'il avait préparé. Mais c'est ça, c'est la con. Et puis des dialogues entre les deux fondamentalement, bien sûr. Mais c'est deux mondes qui se parlent beaucoup, mais effectivement, on ne sait pas aujourd'hui si les plus grandes avancées qui vont se produire demain vont venir d'une observation ou d'un calcul.
Après nous avoir parlé de l'importance du dialogue dans le monde scientifique, David Elbaz nous a donné un exemple pratique de la création scientifique. Sa thèse sur l'origine du fer dans l'univers et les débats qui ont suivi derrière.
Nous, on a du fer dans le sang, c'est ça qui donne la couleur rouge à notre sang. Et ce fer, il vient de l'explosion d'étoiles. Or, les étoiles sont dans les galaxies. Et ma thèse, ça consistait à comprendre comment se fait-il qu'il y a du fer qu'on peut voir entre les galaxies. Donc on pense que les galaxies saignent, elles perdent une partie de leur fer. Seulement, comment enlever de la matière d'une galaxie? Il faudrait un processus très très violent et on s'était dit qu'il fallait qu'il y ait un très très grand nombre d'explosions d'étoiles, de supernovae, une flambée énorme d'étoiles qu'on n'avait jamais vue. Arrive un jour l'observation d'une galaxie qui n'aurait pas dû exister. Une galaxie qu'on n'avait pas vue mais qui était tout à fait obscurcie par la poussière interstellaire et qui vivait une flambée d'étoiles aux confins de l'univers, c'est-à-dire donc très tôt dans l'histoire de l'univers. Là, j'ai dit, cette galaxie, ça doit être ça. Et effectivement, en travaillant dessus, on s'est rendu compte qu'on levait le voile sur toute une partie invisible de l'univers avec ce que j'appelle les dinosaures galactiques, des galaxies totalement cachées dans la poussière interstellaire et qui perdent une partie de leur matière et qui donnent naissance à ce fer intergalactique. Et donc, quelque part, cette galaxie a changé ma vie. Alors après, effectivement, il y a eu une anecdote que je raconte dans mon livre « Les 10 000 nuits de l'univers », c'est que ça ne s'est pas fait de façon tout à fait linéaire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une conférence où un chercheur américain m'a dit « Est-ce que tu veux venir présenter ton modèle lors de la table ronde qui aura lieu le lendemain ?» Et j'ai dit oui. Et puis, la veille au soir, je lui ai demandé comment ça va se passer. Et là, il m'a dit « Je vais te poser une question à laquelle tu ne sauras pas répondre. » J'ai dit « D'accord. Et quelle est cette question ?» Et là, il m'a dit « Je ne te le dirai pas. » Donc, j'ai insisté. Je suis resté. Il était à table en train de manger avec des collègues. Je n'ai pas bougé. Au bout d'un moment, voyant que je ne partais pas, ça l'a fait rire et il m'a dit « Très bien, je vais te dire la question et de toute façon, tu ne répondras pas. » Il m'a dit la question et ça a lancé toute une chose que je raconte dans le livre, mais je peux dire en deux mots que lorsque je suis retourné à ma table, j'étais assis à côté d'un professeur d'astrophysique qui s'appelle Jean-Pierre Chiez et quand il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a dit, je lui ai dit « Je crois que je suis dans la merde. » Et il m'a regardé, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Je lui ai dit la question qui va me poser ce chercheur américain. Et là, le professeur français m'a dit « Je confirme. » Et cette histoire-là, finalement, d'accepter de me confronter à une difficulté, d'accepter de confronter une idée qui m'était venue en lien avec mon travail, etc., malgré le fait que je n'étais pas dans ma zone de confort, m'a permis d'avancer dans la connaissance. Et ça, c'est quelque chose que je pense pour les jeunes scientifiques ou même dans la vie en général, c'est pas nécessairement l'intelligence qui fait avancer, c'est pas nécessairement la confiance en soi, c'est le côté un peu peut-être curieux, l'envie de partager avec les autres notre émerveillement face à la nature qui l'emporte sur toutes les barrières qui nous bloqueraient normalement. Et il faut se laisser porter par l'émerveillement pour avancer et puis avoir confiance dans le fait que on est plusieurs à s'émerveiller des mêmes choses, même s'il y a toujours des rabat-joie. Et donc, quel que soit le domaine, il y a une vague qui nous porte et puis il faut bien placer sa planche et puis prendre la vague.
Merci David Elbaz d'avoir parlé à nos micros de cet émerveillement nécessaire, dans la science mais aussi dans nos quotidiens. On vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir sa conférence à l'Espace des Sciences en replay sur YouTube et sur le site des Champs Libres. On vous rappelle aussi que son dernier livre vient de sortir, « Les 10 000 et une nuits de l'univers ».